que se lancer. Bonjour Hugo. C'est Daphné qui vient de te saluer, qui vient de noter ta présence. Dieu te bénisse Hugo, ça fait quelques jours que je ne te voyais pas, content que tu sois là. Désolé du petit délai en essayant, toute la machinerie était bien connectée, mais pour X raisons, Facebook faisait des siennes. Donc j'ai dû procéder à la façon de faire qui répare bien des choses en informatique. Donc j'ai éteint et redémarré complètement tout le système. Voilà. Voilà pourquoi je suis un peu en retard ce matin. Alors bonjour à ma mère, bonjour à mon père, bonjour à Didier, bonjour à Marie-Huguette. Vous êtes beaucoup plus nombreux que je ne peux vous nommer, mais je ne vois pas tous les noms, désolé. Bonjour à Guy. Bonjour Babette, bonjour Andreas. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous entendez là? C'est bien entendu Néma qui dévore sa collation. Donc encore une fois, désolé si je ne vois pas les gens, à moins que vous n'écriviez un petit mot. Il semble qu'il y a peu de noms qui s'affichent aujourd'hui. Une autre difficulté Facebook pour la matinée. Bizarrement, je suis rendu à la 20e fois où ma mère se connecte, même si je sais qu'elle ne s'est connectée qu'une seule fois, mais bon. Il y a des bizarroïdes choses qui se passent sur mon Facebook aujourd'hui. Bizarre. Bonjour Yaoi, Dieu te bénisse. Bonjour Charlotte, Dieu vous bénisse. Bonjour Rachel, tu es là. Bien content que tu sois là. Je ne sais pas qui est avec toi. Probablement Mona, Chantal, Ocilia. On les salue. Bonjour Rosie, soyez bénie. Je tarde un peu simplement parce que je sais que la connexion a été compliquée pour plusieurs, il semble. Attention, pas d'image et de son. Est-ce que tu peux écrire à Rosie de relancer son système parce que les autres semblent m'entendre et me voir? Bonjour à la sœur Florie, au frère Louis. Bonjour Julie, Dieu vous bénisse. Je suppose que la belle-mère est là. Hier, elle a dit que je ne l'ai pas saluée, mais je n'ai pas vu son nom s'afficher. Donc, je salue la belle-mère pour ne pas avoir de problème ni avec la belle-mère, ni avec sa fille. Donc je salue de tout cœur ma belle-mère. Bonjour à la sœur Susanna. Bonjour Chantal. Bonjour Léo, bien entendu aussi. Bonjour à la sœur Nancy. Bonjour à Farley et à sa maman Marie-André. Alors on va prier, on a donné 5 minutes de plus. Encore une fois, désolé du contretemps. Facebook fait des siennes aujourd'hui. Et puis la connexion était un peu plus ardue. Je crois même qu'il y a eu des problèmes hier lors de la diffusion du cours avec le pasteur André, si j'ai bien compris. Donc on s'en excuse. On essaie de remédier à tout cela. Alors prions pour débuter. Seigneur, encore une fois, merci, merci, merci d'être là, merci de nous accueillir, merci de prendre soin de nous, merci de nous nourrir, de nous abreuver. Et merci, Seigneur, de travailler encore nos vies, afin, Seigneur, que celles-ci puissent te glorifier et être ces outils que tu voulais utiliser pour l'avancement de ton royaume. Que nous soyons les serviteurs, les servantes que tu désires, que tu avais en projet de toute éternité et pour lesquels, Seigneur, tu as donné ta vie. Alors ce matin, nous implorons ta grâce, nous implorons ta sagesse et ton intelligence alors que nous penchons nos regards dans ta parole, que celle-ci puisse nous nourrir, nous abreuver, que celle-ci, Seigneur, puisse réformer les choses que tu désires changer dans nos vies et qu'elle puisse, Seigneur, susciter une semence qui portera du fruit jusque dans l'éternité, un fruit abondant, un fruit agréable pour toi, un fruit profitable à l'avancement de ton royaume. Alors Seigneur, bénis ma sœur ce matin, bénis mon frère, bénis-nous aussi à la maison, alors que nous partageons, Seigneur, ta parole. Nous t'avons prié dans le tout précieux nom de Jésus. Amen. Alors je lis pour vous le passage, bien entendu, qui nous sert de réflexion durant toute cette semaine, qui est dans Lévitique au chapitre 25 et les versets 13 à 18, mais ce matin on va se limiter à deux versets, le verset 15 et 16. Hier on a déjà étudié le 13 et le 14, donc aujourd'hui on repasse le 15 et le 16 en révision, puisque ce sont des versets qu'on a étudiés dimanche lors de la prédication. Alors, je lis pour vous Lévitique 25, le verset 15 et le verset 16. « Tu achèteras de ton prochain en comptant les années depuis le jubilé, et il te vendra en comptant les années de rapport. Plus il y aura d'années, plus tu élèveras le prix, et moins s'il y aura d'années, plus tu réduiras le prix, car c'est le nombre de récoltes qu'il te vend. » Je répète le verset. Tu achèteras de ton prochain en comptant les années de jubilé, et il te vendra en comptant les années de rapport. Plus il y aura d'années, plus tu élèveras le prix, et moins s'il y aura d'années, plus tu le réduiras, car c'est le nombre de récoltes qu'il te vend. Encore une fois, bienvenue parmi nous pour ce temps de méditation, de bénédiction matinale. Comme on l'a expliqué dimanche, cette semaine, on continue donc notre thématique sur le jubilé et on fait le lien entre le jubilé et les transactions terriennes, les transactions de l'opin de terre qui s'exécutaient au temps du jubilé. On a eu l'occasion de vous le dire à quelques reprises, de l'expliquer. Lorsque l'année du jubilé arrivait, la 50e année dans un calendrier judaïque, cette année-là, on rétrocédait à leurs anciens propriétaires, leurs propriétaires initiaux, le terrain qu'ils avaient dû vendre ou qu'ils avaient décidé de vendre pour subvenir à leurs besoins. Si quelqu'un avait des difficultés financières, mais qu'il possédait un terrain, il pouvait donc donner ce terrain en vente et puis avec le profit rembourser ses dettes. Ce qui faisait que pendant X nombre d'années jusqu'au prochain jubilé, il se trouvait sans terrain, à moins qu'il réussisse à en acheter un par la suite. mais le terrain qu'ils avaient initialement vendu leur était rétrocédé lorsque les trompettes sonnaient l'année du jubilé. De surcroît à ça, et c'est juste un petit aparté, lorsqu'on vendait ce terrain, on pouvait aussi devenir des métayers. Ça veut dire qu'on avait une terre qu'on n'était plus capable de garder pour son profit personnel. On le vendait à un maître terrien, à quelqu'un qui était plus riche, et ce propriétaire nous la donnait en servitude, en service, si vous voulez. On devenait des métayers. Ça veut donc dire qu'on travaillait la terre qui appartenait à quelqu'un d'autre. C'est une pensée qui m'est venue hier. Pensez un peu à ce fermier qui aurait été le propriétaire de son propre terrain, qui doit le vendre pour subvenir à ses besoins. Et le propriétaire, le nouveau propriétaire, lui dit « Je te le laisse entre les mains, je vais en tirer un profit. Toi, je te paye et tu vas prendre soin de ce terrain. » Et pendant X nombre d'années, il travaille un terrain qu'il connaît bien, un terrain qu'il a lui-même préparé et qui profite à un propriétaire autre que lui, mais il en reçoit tout de même un salaire. Imaginez le jour où ce terrain pour lequel j'ai travaillé pendant 49 ans maximum, pendant 30 ans, pendant 20 ans, pendant 15 ans, revienne à ma possession. Ça doit être un jour de grande joie, un peu comme quelqu'un qui a une hypothèque et qui finit par acquitter le paiement, le dernier ultime paiement de son hypothèque. Je suppose qu'il y a une grande joie qui habite la personne. Donc ça, c'était simplement la petite aparté pour parler un peu de comment on pouvait céder à quelqu'un d'autre notre terrain. Aujourd'hui, dans ce verset 16, verset 15 et verset 16, on se rend compte que Dieu va dire, regardez, voici comment vous allez vendre le terrain. Lorsque vous le vendez, vous allez vendre le terrain aux gens depuis le nombre de jubilés, nombre d'années qui sont passées depuis le jubilé. Donc, 50 ans moins le nombre d'années qui restent. Et lorsque vous allez acheter, le calcul sera à peu près le même. On va tout simplement dire, ben voici combien il y a de récoltes qui nous séparent depuis jusqu'au prochain jubilé. Et ça, c'est un principe d'équité. Ça veut donc dire que Dieu nous dicte comment gérer nos relations. Un peu comme beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Dieu nous dictait au départ, voici mes principes, voici comment vous devriez opérer. Mais le péché initial d'Adam et Ève et les conséquences que ça a eues sur nos propres fonctionnements font en sorte qu'on a perdu, on s'est éloigné de ces principes divins et on a établi des principes purement humains, très souvent axés ou orientés par le fait même de notre nature pécheresse. Rappelons-nous le tout premier péché, vous allez voir qu'on va retourner sur cette notion en toute conclusion de notre partage de ce matin. Quel a été le premier péché? Le premier péché a été de désobéir à Dieu qui avait dit « Vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si vous en mangez, vous mourrez. » Mais quel a été l'argument? Quelle a été la tentation? Pourquoi Adam et Ève ont-ils désiré manger ce fruit? Est-ce que c'était par une simple interdiction qui devenait pour eux maintenant une tentation? Non, c'est pas ça. L'argument qui a été utilisé par le diable, c'était de leur dire, regardez, le Seigneur sait très bien que si vous en mangez, vous serez semblable à lui. Et il veut donc vous empêcher de prospérer et d'être aussi grand que lui. Et ce retour à soi-même, ou cette orientation vers soi-même, penser à nous au lieu de penser à Dieu, ça a été la première source de tentation de l'homme et de la femme. Ils se sont dit, hey, si on en mange, on va devenir de grandes personnes, on va devenir aussi grand que Dieu. Et ce faisant, l'envie s'est emparée d'eux, l'égoïsme a fait son travail et ils ont donc mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, avec toute la conséquence que ça a eu. Donc le péché qui a été transmis générationnellement d'une époque à une autre, la nature pécheresse qui est devenue la nature propre même de l'homme, et puis la mort subséquente, mort physique, mais aussi mort spirituelle qui s'en sont suivies. Mais tout ça, à la base, ça a été parce que on a détourné nos regards de Dieu, on a détourné notre passion envers Dieu vers une passion envers nous-mêmes. Et ce faisant, toutes nos relations en ont été affectées. On rentre dans un travail en se demandant qu'est-ce que ce travail va surtout nous apporter en nous. Il y a des gens qui fréquentent une église et ils se disent « mais qu'est-ce que cette église m'apporte ?» Il y a même des bien-pensants qui régulièrement vont faire des publications sur les médias sociaux en disant « si ton église ne te profite pas, si ton église ne t'apporte pas quelque chose de tangible, alors quitte-la, va ailleurs. » On est dans une église parce que Dieu nous y implante. On quitte notre église parce que Dieu nous envoie travailler ailleurs. Donc, le démarrage dans un ministère, le démarrage dans une œuvre. Mais si c'est pas une de ces raisons-là, il faut que les raisons de quitter l'Église soient des raisons très graves au niveau d'une hérésie théologique, au niveau d'une déviance, au niveau du leadership, au niveau d'abus qui se passeraient. Et là, je parle pas, le pasteur parle moins doux et l'autre parle plus doucement, le pasteur est moins affable alors que l'autre nous fait plus rire. Non, on parle de méfaits qui seraient organisés délibérément et de façon réfléchie par un leadership. À moins qu'il n'y ait des raisons majeures, nous devons revenir à la parole de Dieu qui dit « Restez dans vos assemblées, ne les abandonnez pas » comme c'est la coutume de plusieurs. Je pense à l'Église et je pense à l'implication, un peu comme Kennedy va dire à sa population américaine, ne demandez pas ce que vous pouvez apporter à l'État, ne demandez pas ce que l'État peut vous apporter, mais demandez-vous ce que vous pouvez apporter à l'État. Nous entrons dans le corps de Christ et Dieu nous promet de prendre soin de nous, mais nous entrons dans le corps de Christ pour servir le corps de Christ. Un serviteur, dans son énoncé principal, dans sa définition principale, n'est pas quelqu'un qui se sert, mais quelqu'un qui sert un maître ou qui sert autrui. Lorsque nous sommes devenus serviteurs de Dieu, nous ne sommes pas des serviteurs de nous-mêmes, nous sommes serviteurs du Dieu Tout-Puissant. Et le terme serviteur et le terme ouvrier, c'est le même terme qui veut dire esclave dans la parole de Dieu. Et lorsqu'on parle que Dieu nous a rachetés, c'est donc que Dieu a acquis un droit de propriété sur notre existence. Nous devenons donc esclaves de Jésus. Nous servons Jésus. Et notre libération de ce service ou notre affranchissement de ce service est tout simplement de notre part une décision de quitter les voies de Dieu et de quitter ce que Dieu nous demande. Donc, il nous faut comprendre aujourd'hui que lorsque nous entrons au service de Dieu, nous entrons dans une vie où nous oublions notre propre personne et nous vouons notre existence à autrui. On va revenir là-dessus parce que je sais que plusieurs se demandent « Alors, qui va prendre soin de moi ?» Et on va revenir là-dessus tout à l'heure. Mais voilà la base que je tenais à mettre au début de notre exhortation de ce matin. Donc, Dieu dicte comment gérer nos relations. Dieu dicte comment je dois opérer auprès des uns et auprès des autres. Pourquoi Dieu dicte-t-il ma façon d'opérer ou de gérer mes relations? Premièrement, pour que personne ne soit brimé ou lésé. Dans cette transaction imagée du jubilé, dans cette transaction d'un terrain qui s'opérait dans le jubilé, il y avait une équité qui était établie par Dieu. C'était, voilà, tu comptes le nombre d'années, le nombre de récoltes qui nous séparent du prochain jubilé, de la prochaine rétrocession de ce terrain, et voici comment le prix va en être fixé, parce que c'est le nombre de récoltes qui fixe le prix. Donc, dans ce processus, personne n'est brimé. Il y a un processus de protection que ce soit pour le vendeur ou pour l'acheteur. Il n'y a pas un des deux qui va se faire un coup d'argent là-dessus en opprimant la partie adverse. Il y a une question de protection des individus. Et ce faisant, Dieu protégeait l'ensemble des individus. Il protégeait la partie vendeuse et il protégeait en même temps la partie acheteuse. Donc Dieu veut te protéger. Sache que tu n'as pas à avoir peur de rentrer dans les offices de Dieu. Tu n'as pas à avoir peur d'entrer en service pour Dieu. Tu n'as pas à avoir peur de rentrer dans la famille et dans le pays et dans le peuple de Dieu, parce que Dieu veille à la protection de l'ensemble des parties prenantes de son peuple. Et c'est souvent une image, et à la base, on est revenu tout à l'heure sur le péché initial, mais c'est la même chose que le diable va tenter et tenter et tenter, génération après génération. Il va essayer de nous dire que Dieu est injuste. Dieu ne te permet pas d'atteindre ton plein potentiel. Il va te brimer pour que tu sois moindre que ce que tu pourrais être. Si tu te débarrassais de la question de Dieu, tu pourrais tellement être grand. Un peu ce que le diable a aussi proposé à Jésus. Si tu te prosternes devant moi, si tu m'adores, voici tout ce que tu vas recevoir. La même tentation qu'il a essayé de lancer sur Adam et Ève, le diable va le lancer des siècles et des siècles et des siècles plus tard à Jésus lorsqu'il lui présente toutes les nations et toute l'autorité qu'il pourrait avoir s'il se prosternait devant le diable. Donc là, si le diable l'a fait avec Jésus, si le diable l'a fait avec Adam et Ève, assurément, il va le faire avec toi et avec moi. Et il va essayer de te dire, prends les choses en main, protège-toi toi-même, essaie de forcer ta place et ne te soucie pas de ce que Dieu demande, mais pense plutôt à ta propre personne. Cette pensée très humaniste, très humaine, qui dit pense à toi-même avant de penser aux autres, parce que tu ne pourras pas protéger les autres si tu n'as pas pris soin de toi. Prends soin de ta personne afin d'être capable de prendre soin des autres. Et je n'ai cesse de répéter depuis des années et des années, cela est une doctrine du diable. La pensée chrétienne, la doctrine chrétienne, c'est celle de Jésus qui dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » La doctrine chrétienne, c'est Jésus qui donne sa vie entièrement, totalement, jusqu'à son dernier souffle et jusqu'à la dernière goutte de sang. Il donne sa vie au profit de l'humanité, au profit de toi et de moi. Ici, nous sommes des élèves, des étudiants, des disciples de la pensée chrétienne, des disciples de la pensée de Dieu. Alors nous aussi, nous devons vivre par ce même principe de donner notre existence, de vouer notre existence aux autres. Dieu prendra soin de toi, Dieu te protégera. La deuxième raison pourquoi Dieu désirait que l'ensemble du peuple soit géré par ses façons de faire, c'était non seulement pour que personne ne soit brimé ou lésé dans le processus, mais aussi pour que personne ne puisse se déclarer brimé ou lésé. Soyons honnêtes, lorsqu'on regarde notre situation et qu'on se compare les uns aux autres, tu trouves tout le temps quelqu'un qui, dans un domaine particulier, semble favorisé par rapport à toi. Et certains d'entre nous en ont fait même une deuxième nature. Il y a des gens qui vivent dans ce que j'appellerais la victimisation. Il y a des gens qui sont victimes de tout et de tous. Et toutes les situations qu'ils vivent, c'est l'occasion pour eux de dire « on me fait mal, on me brime, on me lèse, on m'opprime ». Ça se pourrait qu'effectivement, par moment, tu sois dans des temps de tribulation. On a des frères et des sœurs qui vivent sous la menace parce qu'ils sont des chrétiens. Vous allez en Corée du Nord, si vous affichez votre foi, vous êtes condamné à des travaux forcés, à aller dans des camps qu'on appelle des camps de rééducation pour vous transformer totalement et annihiler tout ce qui est de Dieu et tout ce qui est de la foi chrétienne en vous. Il y a même des époques dans l'histoire de l'Église où se proclamer chrétien, c'était tout à fait un synonyme de martyr et tout à fait un synonyme de mise à mort. Il y a des pays encore, si ce n'est pas étatisé avec des lois, il y a des pays où, de façon informelle, de façon tout à fait par contre intrinsèque aux lois populaires, si un membre de la famille se déclare chrétien, il va y avoir ce qu'on appelle des crimes d'honneur. Et certains de nos frères et de nos sœurs qui affichent leur foi chrétienne dans de telles nations peuvent être mis à mort par la famille, peuvent être mis à mort par des proches, tout simplement pour garder l'honneur de la famille, comme quoi tous sont restés attachés à leur religion initiale et n'ont pas confessé le nom de Jésus. Alors j'aimerais que l'on puisse regarder nos situations. Ma situation, même s'il y a des gens qui m'aiment pas trop, même s'il y a des gens qui pourraient placoter contre moi, même s'il y a des gens qui pourraient tenter de me faire des problèmes, de me mettre des bâtons dans les roues. Lorsqu'on se compare à ces héros de la foi, ces frères et ces sœurs en Corée du Nord, ces frères et ces sœurs dans des pays islamiques, ces frères et ces sœurs dans des pays à l'époque communiste où on brimait la liberté de foi, particulièrement la foi chrétienne. Est-ce qu'on peut vraiment se comparer à eux? Et il y a certaines personnes qui ramènent dans cet esprit de victimisation, ramènent la pensée sur eux. Lorsque ce qui me fait bouger, c'est cette pensée comme quoi je suis victime, mais je suis en train de faire exactement la même chose qu'on a réprimée tout à l'heure. Je suis en train de focusser sur moi-même. Si Jésus avait peur d'être une victime, il n'aurait pas donné sa vie pour nous. Si Paul avait eu peur d'être une victime, il n'aurait pas donné sa vie pour l'Église en étant lui aussi martyr éventuellement à Rome. Si Pierre était resté le même individu que la soirée de l'arrestation de Jésus, il n'aurait pas lui aussi passé par la mort en tant que martyr. Et Jésus lui a dit, un jour on va te mener là où tu ne veux pas, un jour on va t'attacher. Et la Bible nous dit qu'il parlait de la mort que devait un jour subir Pierre. Donc Pierre est mort martyr. S'il n'avait pas accepté de passer l'Église avant lui-même, il serait resté ce même Pierre qui, le soir de l'arrestation de Jésus, dit par trois fois qu'il ne connaît pas Jésus. Si Jean n'avait pas accepté d'être martyr pour l'Église, il ne serait pas allé sur l'île de Patmos et il n'aurait pas eu toutes les révélations que Dieu lui a données sur l'Apocalypse et sur la fin des temps. La vie chrétienne est une vie qui se vit pour les autres, pour autrui. Lorsque je suis toujours dans cet état d'esprit de victimisation, je ramène la pensée sur moi. Des fois, pour sortir de la torpeur de la victimisation, c'est tout simplement une décision que je prends de dire, j'ai compris que Jésus a donné sa vie pour moi. J'ai compris que moi, en tant que chrétien, je voue ma vie pour les autres. Quelqu'un a une fois dit une parole très sage. Il disait, lorsque ça te fait mal de mourir, c'est que tu n'es pas encore mort. Lorsque ça te fait mal, ce par quoi tu passes, c'est que tu n'es pas encore mort. Et la Bible nous appelle à mourir à soi-même. Donc, lorsque les situations, lorsque les insultes, lorsque les brimades de tes adversaires te blessent et te font mal, c'est que dans cette partie-là de ta vie, tu n'es pas encore mort et tu es dans ce processus probablement dans lequel tu dois mourir à toi-même. Donc ici, lorsqu'on pensait à la transaction du jubilé, à la transaction des terrains qu'on échangeait d'une personne à l'autre, on oubliait sa propre personne parce qu'il fallait penser à l'autre et on oubliait, on était protégé de devenir. Tu n'avais pas d'argument pour dire « je me suis fait avoir, je me suis fait léser ». Les structures de la vente, tout comme les structures de nos relations interpersonnelles, devaient être fixées par Dieu. Dieu dictait aussi la façon de gérer nos relations pour que personne ne puisse penser à léser son voisin. Alors non seulement pour éviter que quelqu'un soit brimé et lésé. Deuxièmement, pour éviter que quelqu'un puisse se déclarer brimé ou lésé. Mais troisièmement, pour que personne ne puisse monter dans son esprit des plans planifiés, préparés, des façons de brimer son voisin, son prochain. Puisque les règles étaient établies, puisque la façon de faire, les procédures étaient dictées, il n'y a personne qui pouvait arriver puis dire « Ah ben voici comment je vais rouler mon voisin, voici comment je vais pouvoir profiter de lui » parce que les règles étaient dictées. Mais le jour où nous sommes devenus maîtres de nous-mêmes, le jour où nous sommes devenus axés sur nous-mêmes et on a pris le pouvoir entre nos mains, on a aussi pris le pouvoir d'établir n'importe quelle loi, de n'importe quelle manière, qui faisait en sorte que peu importe le régime dans lequel on est aujourd'hui, alors il y a de l'extrême gauche à l'extrême droite, peu importe le régime dans lequel on est aujourd'hui, il n'y a aucun régime qui est totalement, parfaitement juste et équitable. Le seul régime qui est parfaitement équitable, c'est la théocratie, là où Dieu dirige, dicte toute chose. Voilà pourquoi l'éternité dans la présence de Dieu va être merveilleuse. Parce que dans cette éternité, dans ce paradis, on va revenir aux règles qui régissaient au départ le genre humain. On va revenir à ces règles d'équité, de justice, de générosité qui abondaient dans le jardin d'Éden et qui abondera une fois de plus dans la Nouvelle Jérusalem sous le règne éternel de Dieu. Donc les mauvais desseins étaient annulés, étaient effacés à la base parce que Dieu dictait comment on devait procéder, chose qui devrait être la même dans le peuple de Dieu. Donc dans l'Église, Dieu établit les règles pour que personne ne puisse monter des projets. Ce sont les pensées mauvaises de nos cœurs, ce sont les pensées mauvaises de notre nature humaine qui nous amènent à fomenter des plans pour rouler, pour abuser les uns des autres. Dieu dictait aussi comment gérer nos relations pour assurer et imposer une équité envers tous. Le principe qu'on a vu au tout départ. Personne ne serait roulé, donc tout le monde aurait sa juste part. La Bible nous dit que dans l'Église du Nouveau Testament, il n'y avait aucun indigent, parce qu'on mettait toutes nos richesses ensemble, et cela faisait que, une fois partagés, tous étaient équitablement et également pris en compte et pris en soin. Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, il y a aussi cette pensée que chacun d'entre nous puissions recevoir notre juste part. Pensez simplement à cette parabole des ouvriers où le maître, le patron, le propriétaire du terrain va rémunérer de la même manière chacun pour qu'il y en ait pour tous. Pourquoi Dieu voulait-il qu'il y ait équité? Tout simplement pour contrer l'égoïsme propre à notre nature pécheresse. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, notre nature pécheresse nous ramène à notre propre personne. Ça prend l'œuvre de Dieu, ça prend l'action de Dieu, ça prend aussi une soumission à la pensée de Dieu, une soumission au processus de réflexion de Dieu pour s'ouvrir à l'autre. Que ce soit dans un couple, que ce soit dans une famille, que ce soit dans une équipe, que ce soit dans une église, que ce soit dans une entreprise, quand la pensée c'est moi, 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 je vais toujours tirer les choses vers moi, ce qui va rendre le climat perfide, ce qui va rendre le climat malsain pour une progression. Lorsque je pense selon la pensée de Dieu, je me voue aux autres. Et là, vous allez me dire cette question de tout à l'heure, mais qu'est-ce qui assure ma protection? Qu'est-ce qui fait que je peux être assuré en m'engageant avec Dieu qu'on va vraiment me prendre en compte? À la base, Dieu est Dieu. À la base, ce qu'il dit est une vérité. À la base, Dieu est bon. Et la Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alors s'il est effectivement le bon berger, il va faire en sorte que toutes ses brebis puissent effectivement croître parfaitement et être productives parfaitement. Et que toutes ses brebis puissent profiter pleinement du chapitre 23 des psaumes « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Donc le principe d'équité ne peut être assuré que lorsque l'ensemble du peuple de Dieu embarque dans cette pensée divine en disant « je me voue à l'autre, je me lance pour l'autre, je me donne pour l'autre et ce faisant, ben, l'autre se donne aussi pour moi ». Ce principe que Jésus va résumer avec le commandement nouveau qu'il donne à ses disciples, il dit « voici un commandement nouveau que je vous donne, aimez-vous les uns les autres ». Aimez-vous les uns les autres. La pensée importante, les uns les autres. Aimer est déjà important, mais la pensée qui vient parfaire cette notion de l'amour, qui vient compléter dans toute sa plénitude cette notion de l'amour, c'est aimez-vous les uns les autres. Lorsque j'aime jusqu'à me donner pour l'autre, lorsque l'autre a aussi compris cela, lui aussi va donner sa vie pour autrui. Lui aussi va donner sa vie pour le prochain et puisque je suis en face de lui, je suis son prochain et lui devant moi, il est mon prochain. Donc cette pensée d'un amour mutuel faisait en sorte que tout le monde était aimé, que tout le monde était pris en compte, que tout le monde était pris en soin adéquat, approprié et agréable. Alors pour nous aujourd'hui, qu'est-ce qui est important de retenir? De retenir que la pensée de Dieu est une pensée qui va être bonne pour toutes les parties impliquées. Et que si nous revenons au principe biblique, si nous revenons à un attachement à la parole de Dieu, si nous revenons à une pratique quotidienne de la parole de Dieu, c'est en faisant ainsi que tous vont reconnaître que nous sommes un peuple à part entière et que nous sommes disciples de Dieu. Jésus va dire « à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Cet amour qu'on manifeste les uns pour les autres, qui fait en sorte qu'il n'y a aucun indigent, qui fait en sorte que tout le monde est pris en compte, qui fait en sorte que tout le monde est honoré, que tout le monde est aimé, que tout le monde est valorisé. Cet amour qu'on a les uns envers les autres et qu'on manifeste tous globalement les uns envers les autres, est le plus grand témoignage que l'Église peut avoir. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Tous connaîtront que vous suivez ma parole. Tous connaîtront que vous êtes des imitateurs de ce que moi je vous ai déjà préalablement enseigné. Alors ce matin, je prie que toi et moi, nous puissions retourner à un amour profond, à un amour biblique, à un amour manifestement orienté par la parole et par l'enseignement de Jésus, afin que toi, moi et l'ensemble de nos prochains soyons bénéficiaires de toutes les conséquences profitables et positives de vivre les enseignements de Jésus de façon quotidienne. Alors voilà ce que nous avions pour nous ce matin. Comme il me manque des gens et comme on est un peu avancé, en temps, on ne saluera pas toutes les personnes qui se sont jointes à nous individuellement, mais merci d'avoir été là, bien entendu. Alors, permettez-moi de prier avant que on ne se quitte ce matin. Seigneur, merci parce que tu nous donnes le mode d'emploi pour une vie qui est guidée par ta main toute puissante. Tu nous donnes le mode d'emploi par ta parole afin de vivre les propos, les objectifs et les desseins que tu avais pour nous de toute éternité. Seigneur, pardon. Pardon de nous être détournés de ta parole. Pardon de nous être détournés de ta façon de penser. Pardon d'avoir été si égoïste. Seigneur, toi qui as accepté de délaisser ta gloire éternelle et céleste pour venir parmi nous, et vivre parmi nous, nous donner l'exemple par tes paroles, par tes actions, par ton mode de vie, et donner ta vie pour nous. Ta parole nous dit qu'il n'y a pas de plus grand amour. tu l'as dit, tu l'as prononcé envers tes disciples. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Seigneur, tu nous dis de nous aimer les uns les autres, afin que tous sachent et tous reconnaissent que nous sommes tes disciples. Seigneur, permets-nous, alors que tu nous donnes le souffle de vie encore aujourd'hui, alors que tu nous prêtes encore vie pour quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, quelques décennies, permets-nous, Seigneur, de mener une vie qui ne soit pas centrée sur nous-mêmes, une vie qui ne soit pas égocentrée, une vie qui ne soit pas égoïste, mais une vie qui soit vouée sur l'autre, afin, Seigneur, que nous soyons de dignes représentants de ta parole, de ta pensée et de la grâce et de l'amour que toi-même tu as manifesté envers chacun d'entre nous. Seigneur, nous te faisons confiance comme quoi toi tu veilles sur nous. Toi tu prends soin de nous. Peu importe, Seigneur, si les autres nous brimaient, nous ne voulons pas être coupables d'égoïsme devant toi. Peu importe, Seigneur, si les autres ne nous rendaient pas la pareille, nous ne voulons pas être trouvés coupables d'être concentrés sur nous-mêmes, alors que tu nous appelais à être voués vers autrui. Alors, Seigneur, arrose cette parole. Bannis la peur de nos cœurs, de nos pensées. Et permets-nous, Seigneur, d'expérimenter cette joie immense où tu nous dis, Seigneur, qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Permets-nous d'expérimenter cette joie ineffable, d'être des gens qui sont morts à soi-même, qui laissent vivre Christ à travers eux, qui sont des témoins et des disciples et des représentants fidèles de la pensée de Dieu, du cœur de Dieu, et qui agissent et qui mènent une vie sous l'approbation et sous le regard satisfait et approbateur de Dieu. Alors bénis ma sœur, bénis mon frère, pousse cette parole de ce matin dans des cas précis de notre vie respective et que tu puisses nous utiliser à ta gloire. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors voilà ce qui clôture notre petit temps de ce matin. Que Dieu vous bénisse, passez une bonne journée. On se retrouve demain avec assurément des expériences où vous vous serez donné vous-même pour le Seigneur et pour votre prochain. On se retrouve demain matin pour notre prochaine bénédiction matinale. Demain, on va étudier le verset 17, si vous voulez le relire quelquefois aujourd'hui. Alors que Dieu vous bénisse. À demain tout le monde. Au revoir.